Billets d'Europe, animé par Daniel Bernussou de la Maison de l'Europe, Europe Direct Limousin. Daniel, fin 1993, le traité de Maastricht qui fonde l'Union européenne entre en application. Durant les 8 années suivantes, 2 nouveaux traités européens, Amsterdam et Nice, sont signés et ratifiés. Alors pourquoi une telle addition ?
Lors de la signature du traité fondateur de Maastricht, les États membres, conscients que les réformes, notamment institutionnelles, contenues dans le traité sont trop limitées, inscrivent dans le traité lui-même la convocation d'une nouvelle conférence intergouvernementale en mars 1996 à Turin. Il s'agit, sous les guillemets, d'examiner certaines dispositions du traité pour lesquelles une révision est prévue. La négociation se déroule dans un contexte de moindre pression que pour Maastricht, avec une réunification allemande bien lancée, l'euro sur les rails et l'entrée en 1995 dans l'union de 3 nouveaux pays, l'Autriche, la Suède, la Finlande. Un quatrième, la Norvège, suite au refus par référendum de ses citoyens, est revenu sur son adhésion. Mais effondrement du monde soviétique oblige, la perspective d'adhésion à terme des anciens pays de l'Est impose de se préparer en reprenant des questions laissées ouvertes par Maastricht. 15 mois de négociations aboutissent au traité modificatif d'Amsterdam, approuvé par le Conseil européen donc d'Amsterdam les 16 et 17 juin 1997 et signé le 2 octobre 1997 pour une entrée en vigueur le 1er mai 1999.
Alors, qu'y a-t-il dans le traité ?
Alors, si le traité d'Amsterdam conserve les 3 piliers de Maastricht, il fait entrer des politiques relevant jusque-là de la coopération intergouvernementale dans le champ communautaire. Ainsi en est-il des questions de sécurité intérieure et de circulation des personnes, immigration, asile, droit des visas, et l'acquis Schengen est intégré dans le traité. Cependant, la coopération policière en termes de lutte contre le terrorisme, le crime organisé, la pédophilie, etc., n'est pas communautarisée. La politique sociale devient une politique communautaire, emploi, égalité, femmes-hommes, interdiction des discriminations, défense des consommateurs, reconnaissance des services publics. La protection des droits fondamentaux, santé, information, est renforcée et un mécanisme de sanctions politiques à l'encontre d'États bafouant les principes de la démocratie et les droits de l'homme est créé. S'agissant de la politique étrangère et de sécurité, la PESC, le traité prévoit, outre des stratégies communes, la création du poste de haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune. Dans le domaine institutionnel, le rôle du Parlement est renforcé grâce à l'extension et à la simplification de la procédure de codécision qui le place à égalité avec le Conseil pour la plupart des textes législatifs. Au sein du Conseil, le vote à la majorité qualifiée est étendu.
Le traité d'Amsterdam présente-t-il des lacunes ?
Alors, si le traité enrichit le contenu social européen, si dans le traité est introduite une clause de flexibilité permettant aux pays qui le souhaitent d'approfondir leur coopération dans certains domaines, on appelle ça des coopérations renforcées, force est de constater que, faute d'accord sur une réforme des institutions, Amsterdam ne fait guère progresser l'Europe politique. C'est ce qui conduit à inscrire dans un des protocoles du traité la convocation d'une future conférence intergouvernementale afin de rattraper ce que Jacques Delors qualifie très sévèrement, il faut le dire, de fiasco. Cette conférence, convoquée lors du Conseil européen d'Helsinki en décembre 1999, s'ouvre en février 2000 et se conclut à Nice en décembre par un accord qui modifie le traité sur l'Union européenne. C'est le traité de Nice, signé à 15 le 26 février 2001.
Le traité de Nice doit donc réussir la réforme du fonctionnement institutionnel en vue de l'élargissement de l'Union. Que prévoit-il ?
Alors, le traité de Nice prévoit qu'à partir de 2005, la Commission européenne sera composée d'un seul commissaire par État membre, le nombre de commissaires devant rester inférieur à 27. Afin de garantir la cohérence de la Commission européenne, le traité renforce les pouvoirs du président de cette commission, désigné à la majorité qualifiée par les chefs d'État ou de gouvernement, et après approbation par le Parlement, il distribue au sein du Collège des commissaires les portefeuilles, il désigne les vice-présidents, il peut aussi demander la démission des commissaires. Le traité renforce le rôle du Parlement européen. Le champ de la procédure de codécision est étendu à de nouvelles dispositions lutte contre les discriminations, cohésion économique et sociale, visa, asile, immigration. Le nombre maximal de députés passe de 626 à 732, avec une répartition fixée pour les États membres et pour les pays candidats. Le droit de recours du Parlement devant la Cour de justice est étendu. Au Conseil, la procédure de décision à la majorité qualifiée s'applique à une trentaine de nouveaux domaines. À partir de 2005, une nouvelle pondération des voix attribuée à chaque État en fonction de la population réduira les déséquilibres résultant des élargissements successifs. Les votes au Conseil seront validés s'ils représentent 62% de la population de l'Union. Pour accroître l'efficacité de la justice européenne, la répartition des compétences entre la Cour de justice et le tribunal est modifiée. Enfin, il est prévu que pour les membres qui souhaitent mettre en place une coopération renforcée, les conditions seront allégées avec, par exemple, la suppression du veto opposable d'un État membre ou le passage de la majorité à 8 États membres.
Comment les traités d'Amsterdam et de Nice sont-ils accueillis ?
Alors, Amsterdam est lacunaire. Nice déçoit au point d'être rejeté par le seul pays ayant interrogé sa population par référendum. En juin 2001, les Irlandais disent non à 54% avant d'inverser leur vote en octobre 2002, permettant ainsi au traité d'entrer en vigueur le 1er février 2003. Par ces insuffisances, le traité convainc si peu que les États inscrivent dans une déclaration annexée au traité la demande que s'ouvre un débat plus large et plus approfondi sur l'avenir de l'Europe. En décembre 2001, le Conseil européen de Laeken en Belgique décide la convocation d'une convention qui s'ouvre en février 2022.